Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Catherine, vous êtes une femme et une mère extraordinaire. Vous réussissez si bien avec Philippe et les enfants, vous avez sûrement un secret. Non, j'ai pas de secret. Je suis moi, c'est tout.
J'ai résolu de faire faire à mes lecteurs un pas de plus dans la connaissance des hommes, en l'étirant, s'il est possible, de cette règle unique et fausse, de juger toujours du cœur d'autrui par le sien. Tandis qu'au contraire, il faudrait souvent, pour connaître le sien même, commencer par lire dans celui d'autrui. Je veux tâcher que pour apprendre à s'apprécier, on puisse avoir du moins une pièce de comparaison, que chacun puisse connaître soi et un autre, et cet autre, ce sera moi. Ce sera lui, mais pourquoi pas vous? Et pourquoi pas eux, les membres de l'équipe des Nouveaux Chemins, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Lucie Tardy et Colomba Grossi, avec Lydia Portis-Guérin cette semaine à la réalisation, Myriam Guillot à la prise de son, et Géraldine Mosna-Savoie, que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillon, qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour à vous, Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Eh bien, une biographie aujourd'hui, celle de C.L.R. James, la vie révolutionnaire d'un Platon noir de Mathieu Renaud, paru aux éditions de La Découverte.
Un Platon noir, ça donne envie. Rendez-vous à 10h51. Dans sa lettre à un membre de l'Assemblée nationale en 1791, le philosophe Edmund Burke, alors député à la Chambre des communes britanniques, présente Rousseau comme le grand responsable de la révolution qui a conduit la France à sa perte. Et pour cause, Rousseau possède, plus que Voltaire, le vice dominant sur lequel les révolutionnaires veulent édifier une société nouvelle, la vanité. Ce vice, écrit Burke, le possédait à un degré proche de la folie. Et c'est cette même vanité déséquilibrée et excentrique, poursuit-il, qui a poussé cet homme, le Socrate fou de l'Assemblée nationale, à publier une confession insensée de ses fautes insensées et à chercher à conquérir une nouvelle sorte de gloire en mettant audacieusement au jour les vices obscurs et vulgaires qui peuvent quelquefois, nous le savons, se mêler à d'éminents talents. Cet abus, poursuit-il, et cette perversion avec lesquelles la vanité use même de l'hypocrisie ont poussé Rousseau à faire le récit d'une vie qui n'est même pas parsemée ou marquée, ça et là, de vertus, ni même distinguée par une seule bonne action. Voilà la vie qu'il décide de proposer à l'attention du genre humain. Voilà la vie qu'il jette, en un défi brutal, à la face de son créateur, dont il ne reconnaît l'existence que pour le braver. Rousseau, bien sûr, avait prévu et anticipé sa défense sur le thème même de la vanité. « Je crois que jamais individu de notre espèce n'eut naturellement moins de vanité que moi », peut-on lire au livre 1 des Confessions, dans un paragraphe précédant le récit de la volupté jouissive qu'il ressent à se faire fesser par Mademoiselle Lambercier. Cette phrase laisse songeur, celui qui non seulement affirme qu'il n'a aucune vanité, mais encore qu'il en a moins qu'aucune personne vivante, n'éveille-t-il pas immédiatement la suspicion en contredisant le propos par le geste, la matière par la manière? Bienvenue dans le paradoxe Rousseau, dont les confessions nous donnent le portrait le plus délicieux. Se prendre pour modèle pour faire avancer la connaissance humaine, est-ce le comble du narcissisme ou la preuve d'une humilité précieuse? En ne parlant que de lui, Rousseau est à la fois bouleversant et insupportable. Il enchante autant qu'il exaspère. Un point, cependant, sur lequel admirateurs et détracteurs s'accordent, n'en déplaise à Burke, son génie, qui en fait l'un des meilleurs prosateurs de la langue française. « Alors serez-vous séduit ou repoussé par tant de sincérité ? Vous avez 4 jours pour vous décider, au terme d'une série d'émissions qui vous propose de lire et relire ce texte magistral que sont les confessions. Avec demain Claude Habib qui vous contera le bonheur aux charmettes dans le livre 6. Mercredi Jean-François Perrin qui vous racontera le plaidoyer de Jean-Jacques, situé du livre 7 au livre 9 des confessions. Et jeudi ce sera le philosophe Paul Audy qui réfléchira sur l'écriture à l'épreuve de soi en lisant la fin des confessions et les textes ultérieurs. Mais aujourd'hui, c'est Alain Gros-Richard, professeur honoraire de littérature à l'Université de Genève, à qui l'on doit notamment une édition très complète et très, très agréable à lire, je dois dire, et donc en Garnier Flammarion, des confessions. Alain Gros-Richard, donc, il vient tourner les premières pages de ses confessions hors du commun. Bonjour à vous.
Bonjour.
Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature. Et cet homme, ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra. Je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien eu de mauvais, rien ajouté de bon. Et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, bon, généreux, sublime quand je l'ai été. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables. Qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères, que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose, « Je fus meilleur que cet homme-là ».
Comment Rousseau a-t-il été conduit à écrire ce texte improbable et inédit, en tout cas, aime-t-il à le croire, que sont les confessions, Alain Gros-Richard ?
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est le fameux préambule des confessions qui date des années 1770, c'est-à-dire d'un moment où Rousseau s'est déjà depuis un certain temps engagé dans l'entreprise des confessions. Il s'y engage après son exil à Moitiers, quand son Émile, son traité de l'éducation, a été condamné à la fois à Paris et puis à Genève. Et là, il va entreprendre d'écrire ce qu'il appelle d'abord les mémoires de sa vie que lui demande son éditeur Ray. Et alors, il va écrire à cette occasion un premier préambule. Ce que je voudrais dire, c'est que la situation dans laquelle il va se mettre à écrire, il est donc condamné partout, il se sent persécuté. Il y a deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est que il décide de s'y mettre à un moment où il se sent malade, très malade, mourant même, où il écrit son testament. Et dans ce testament, c'est en janvier 1763, il dit à ma mort, « Ouvrez mon corps pour qu'on vérifie bien que je ne souffre d'aucune maladie vénérienne comme on le fait circuler. » Notamment Voltaire le racontera. Donc il y a cette idée « Ouvrez mon corps ». Bien. C'est intéressant parce que le texte qu'on vient de lire du
interprété
préambule,
par Georges Clès, oui, le comédien Georges Clès.
S'ouvre sur une exergue tirée d'un poète latin, Intus et Incute. C'est le poète perse, c'est une satire du poète latin perse. Intus et Incute qui veut dire à l'intérieur et sous la peau. C'est-à-dire que au moment où il écrit ses confessions, il y a à la fois cette affirmation je m'ouvre à vous dans tout mon intérieur, intimement, et en même temps, qu'on ouvre mon corps après ma mort. Il y a cette idée d'ouverture aux yeux de tous d'un intérieur. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que au moment où il se lance dans cette entreprise des confessions, il vient de découvrir avec une véritable passion d'enfant, comme il le dit, la botanique de l'inné. C'est-à-dire une botanique qui approche la classification des plantes à partir de leur caractère sexuel. Et Rousseau s'extasie, il le racontera dans Les Rêveries plus tard, devant la prodigieuse variété de la sexualité végétale. Et c'est intéressant parce que, précisément, tout le premier livre des Confessions insistera sur cette ambiguïté qu'il a concernant son sexe. Je suis à la fois efféminé et indomptable, j'ai un cœur de romain et un cœur presque de jeune fille, de jeune vierge, etc. Bon, on pourrait ajouter une troisième chose, c'est que à ce moment-là, il a revêtu sa robe d'arménien, c'est-à-dire il est habillé à la fois en turc mais en même temps en femme. Il écrit à une de ses amies, Madame de Verdelin, « Me voici à présent plus d'à moitié femme et je vous demande de m'accepter dans votre sexe puisque les hommes m'ont exclu du leur. » Il y a donc une position subjective, elle n'est pas absolument déterminante, dans laquelle il va s'engager à écrire.
Et c'est précisément sur cette position subjective que j'aimerais qu'on s'interroge, puisque si je vous pose la question de la Genèse des Confessions, c'est bien parce qu'au moment où il les écrit, vous l'avez dit, il a publié les 1000, il l'a écrit en tout cas, et il a une réception, le texte reçoit une réception que Rousseau juge décevante, et il en vient, dit-il, c'est le texte que j'ai lu en tout début d'émission, à vouloir faire un pas de plus dans la connaissance des hommes, et pour cela se prendre lui-même comme modèle. Doit-on y voir le signe, la preuve de l'échec de ses écrits, disons, philosophiques, pour que le seul recours qu'il ait afin d'avancer dans la connaissance des hommes soit de se tendre un miroir et de se décrire lui-même?
Non, je ne crois pas que c'est un échec. Je crois que c'est un prolongement d'une audace extraordinaire selon lui. Il ne faut pas oublier que ce qui l'a rendu célèbre après le discours sur les sciences et les arts, c'est le fameux discours sur l'origine de l'inégalité. « Ô homme, voici ton histoire », dit-il, en remontant à l'origine, bon, cette origine fictive de l'homme à l'état de pure nature. Bien. Ensuite, l'Émile, c'est à nouveau une interrogation anthropologique sur l'homme qui a disparu, l'homme primitif, mais qu'on retrouve dans chaque petit enfant qui naît. Et son projet d'éducation, c'est dans quelque sorte de conserver l'homme originel en le rendant apte à la société, d'essayer de combiner quelque chose que l'histoire, qui dans l'histoire a très mal tourné, puisque en entrant dans la société, l'homme est devenu méchant. Bien. Alors, le nouveau pas dans la connaissance de l'homme, c'est, eh bien, ça va être moi. Bon, mais moi, pas parce que c'est moi ou que je suis vaniteux, etc. Ça,
c'est toute la question quand même.
N'entrons pas. Je veux dire, selon lui, il y a une analyse très fine au début du premier préambule qu'il a écrit pour les Confessions, où il dit on ne peut pas se connaître mutuellement parce que chacun trouve dans l'autre sa propre image et essaye de dépasser cette image. On est tout à fait dans la logique du stade du miroir de Jacques Lacan. Bon, et donc il faut trouver une position où celui qui sert de modèle soit autre que tous les autres et soit comme un point fixe, une sorte de révolution copernicienne où Rousseau se pose comme le point de repère fixe à partir duquel tous les autres vont pouvoir se comparer. Bon, parce qu'au fond, tous les autres, habituellement, ils sont tous les mêmes. Tous les autres sont tous les mêmes, sauf moi.
C'est ça le paradoxe initial. Voilà. Moi, je suis autre. On a quand même cette phrase dans le préambule qu'on a entendue.
Je suis autre. Moi, je trouve que c'est une formule extraordinaire. Je suis autre. Bon, c'est pas « je est un autre
de Rimbaud. »
De Rimbaud, etc. Je suis autre, disons que ça peut s'entendre, se faire varier de plusieurs manières. Hein. Je suis autre, autre que tous les autres. Et pourquoi je suis autre que tous les autres? Eh bien, c'est mon histoire qui m'a fait ça, qui m'a fait comme ça. Mais c'est aussi, là j'aimerais, on va peut-être trouver un texte, qui, c'est aussi sa manière de jouir, son mode de jouir qui le singularise absolument. Bon, une première manière, je suis autre parce que j'ai découvert, tout à fait par hasard et sans le savoir, une forme de jouissance, ce sera la fessée, mais qui aura beaucoup de conséquences. Et puis, il y a d'autres manières. Je suis autre que l'image qu'on donne de moi. Je suis autre, moi, Jean-Jacques, que l'auteur des textes qui circulent dans le monde. Il y a un Rousseau dans le monde qui ne ressemble en rien au Rousseau des champs. Et puis, la manière la plus peut-être profonde et moderne d'entendre ce « je suis autre », c'est « je suis autre à moi-même ». C'est-à-dire, je suis sans cesse en contradiction avec moi-même d'une certaine manière, et notamment quand je suis obligé de parler. Et toute l'entreprise des confessions qui aboutira aux rêveries, qui ne sont pas la suite des confessions, qui sont un autre statut de texte, c'est au fond de s'interroger sur ce « moi-même ». Est-ce que je peux être moi-même sans être dédoublé en permanence par une partie de moi qui m'échappe et que j'essaie de récupérer par l'écriture. Inventer une écriture qui puisse me dire tout entier dans la multitude de contradictions qui me constituent.
Les confessions, ce n'est pas seulement une entreprise d'autodéfense, une entreprise de plaidoirie. C'est aussi l'occasion pour Jean-Jacques de dire et de dire au monde, de se dire à soi-même, je me suffis, seul, dans une île peut-être, en prison peut-être, si l'on veut bien m'y mettre et m'y garder, eh bien, avec mon imagination, avec mes souvenirs, dans la vie étroite et intime qui sera la vie du souvenir, je trouverai le bonheur. Je trouverai le bonheur dans le dialogue avec moi-même. Dans l'hiver de 1761, Rousseau a eu une espèce de crise extraordinaire. Il était persuadé, l'Émile tardait à s'imprimer, que son manuscrit avait été volé, séquestré par les jésuites qui ne voulaient pas le faire paraître, ou qui plutôt s'attendaient à le voir mourir bientôt et voulaient le faire paraître avec des transformations ou des modifications. Et Rousseau a donné tous les signes de l'agitation et du délire de persécution le plus grave. Mais Rousseau ne veut pas se laisser classer. Et il commence à raconter sa vie, il commence à raconter, se raconter lui-même, raconter les événements capitaux de cette existence.
Pour bien connaître un caractère, il y faudrait distinguer l'acquis d'avec la nature, voir comment il s'est formé, quelles occasions l'ont développé, quel enchaînement d'affections secrètes l'a rendu tel, et comment il se modifie pour produire quelquefois les effets les plus contradictoires et les plus inattendus. Ce qui se voit n'est que la moindre partie de ce qui est. C'est l'effet apparent dont la cause interne est cachée et souvent très compliquée. Chacun devine à sa manière et compose à sa fantaisie. Il n'a pas peur qu'on confronte l'image au modèle. Et comment nous ferait-on connaître ce modèle intérieur que celui qui le peint dans un autre ne saurait voir et que celui qui le voit en lui-même ne veut pas montrer? Nul ne peut écrire la vie d'un homme que lui-même. Sa manière d'être intérieure, sa véritable vie, n'est connue que de lui. Mais en l'écrivant, il la déguise. Sous le nom de sa vie, il fait son apologie. Il se montre comme il veut être vu, mais point du tout comme il est. Les plus sincères sont vrais tout au plus dans ce qu'ils disent, mais ils mentent par leur réticence. Et ce qu'ils taisent change tellement ce qu'ils feignent d'avouer qu'en ne disant qu'une partie de la vérité, ils ne disent rien. Je mets Montaigne à la tête de ces faux sincères qui veulent tromper en disant vrai. Il se montre avec des défauts, mais il ne s'en donne que d'aimables. Il n'y a point d'homme qui n'en ait d'odieux. Montaigne se peint ressemblant, mais de profil. Qui sait si quelques balafres à la joue ou un œil crevé du côté qu'il nous a caché n'eût pas totalement changé sa physionomie.
Restons encore un instant sur le premier préambule du texte Alain Gros-Richard, puisqu'on va entendre ensuite le caractère très savoureux des textes de confession, les anecdotes qu'il raconte, puisqu'on trouve dans ce texte-là, donc qui ouvre les confessions, des réflexions, disons, comme une forme de positionnement quasiment philosophique par rapport à son projet. Dans le texte que l'on vient d'entendre, interprété par Georges Classe, on y entend la volonté, pas simplement de parler de soi, mais de parler de soi intégralement. La sincérité ne suffit pas à Rousseau, il lui faut une forme d'exhaustivité, il lui faut la vérité. Ce qui montre qu'il y a ici une dimension extrêmement morale dans son geste même de se peindre.
Oui, il y a une dimension de moraliste, bien entendu. Un moraliste qui annonce qu'il ne fera pas son apologie, etc. Et qu'au contraire, cette volonté de tout dire, il faut tout dire. Si j'oublie un rien, n'importe quel détail, alors on pourra m'accuser d'avoir menti sur
tout. Mais voilà,
tout.
D'où vient cette volonté de tout dire? C'est au nom de l'idéal de la vérité?
C'est au nom. Alors là, on pourrait revenir sur l'histoire de la vérité ou de la volonté de vérité telle que l'analyse Michel Foucault, par exemple, ou Nietzsche. Mais laissons cela de côté. Il faut pas oublier que il s'est donné comme devise vitam impendere vero, une devise latine, sacrifier, qu'on peut traduire par sacrifier ma vie à la vérité, bon, mourir pour la vérité si on veut, mais ça peut s'entendre aussi sacrifier ma vie telle que je la raconte, la faire dépendre tout entière de l'impératif de vérité. Ma vie, ce sera la vérité. Bon, alors, comment, précisément, c'est là le problème. Il accuse Montaigne. Il était un lecteur de Montaigne absolument passionné, etc. Et c'est justement parce que c'est son frère le plus proche de ce point de vue-là qu'il faut absolument qu'il s'en démarque. Il est très très dur avec Montaigne ici. Montaigne, en prétendant dire vrai, ment.
Ment par omission.
Ment par omission.
Il ne dit pas tout.
Il ne montre qu'un profil. De l'autre côté, il y a un œil crevé, c'est horrible, etc. Bon. Lui, il va prétendre se montrer de face. Bon. Et de face, ça veut dire tout dire, comme une vieille dévote, dit-il à la confession. Je vais tout dire des riens, des choses misérables, etc. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que, il le dit dans le tout premier, le préambule que vous avez lu, celui, le préambule définitif, dit j'ai pu me tromper quelquefois, etc. Quand on lit, par exemple, ce qu'il dit après coup de ses confessions dans les rêveries, il avoue avoir inventé beaucoup de choses. Bon. Mais il se justifiait en disant, c'est pas tellement l'histoire des faits qui importe, c'est l'histoire de mon âme. Et donc, à
Montaigne, ça, c'est pas une vérité biographique, c'est une vérité de l'âme.
Une vérité recherche. À Montaigne, qui ment en prétendant dire vrai, lui, il inverse la chose et il dit vrai précisément en mentant ou en inventant quelques fictions. Bon. Il y a là une réflexion sur la vérité qui est tout à fait passionnante. Évidemment, on peut pas entrer dans le détail, mais peut-être allons-nous trouver quelques textes qui le montrent.
Mais simplement, quand même, il y a une forme de naïveté de la part de Rousseau à penser que l'on puisse avoir accès à soi en toute vérité. Je passe outre l'audace qui consiste à exprimer le désir de sa part de dépasser Montaigne, même si vous l'avez dit, il lui voue la plus grande admiration, mais enfin, il dit très clairement qu'il va aller plus loin. Mais à le lire, on a l'impression que l'homme peut être absolument transparent à lui-même et que cette vérité se trouvera en lui. Il n'en doute pas un instant.
Il a cette idée au départ. Bon, on a lu, on a entendu Starobinski parler tout à l'heure. Je rappelle le magnifique livre qui fait référence de Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, La transparence et l'obstacle. Cette transparence, bon, il la cherche et il la cherche de manière un peu désespérée à travers l'écriture, puisque l'écriture nécessairement vous déguise. Et il s'apercevra dans les rêveries que se connaître soi-même est beaucoup plus difficile qu'il ne le croyait au moment d'écrire ses confessions. Bon. Et il s'inscrit dans un débat de l'époque, le débat où s'engagent Locke, David Hume, etc., sur peut-on connaître le moi ? Le moi est-il une entité connaissable ou n'est-il pas qu'une illusion ? Bon, ce sera la position de Hume, mais c'est aussi la position de Malebranche, la connaissance du moi. Bon, là, il affirme je peux me connaître, mais je me sens moi-même, je vais tout dire, et c'est au lecteur de juger. Ça, c'est aussi très important, cet appel au lecteur qui, finalement, il déballe tout, et au lecteur, de tous ces détails, de juger, est-il bon, est-il méchant ? Hein, c'est ça. C'est-à-dire, il y a une responsabilité du lecteur dans la connaissance.
Comme Mademoiselle Lambercier avait pour nous l'affection d'une mère, elle en avait aussi l'autorité et la portait quelquefois jusqu'à nous infliger la punition des enfants quand nous l'avions méritée. Assez longtemps, elle s'en tint à la menace, et cette menace d'un châtiment tout nouveau pour moi me semblait très effrayante. Mais après l'exécution, je la trouvais moins terrible à l'épreuve que l'attente ne l'avait été. Et ce qu'il y a de plus bizarre est que ce châtiment m'affectionna davantage encore à celle qui me l'avait imposé. Il fallait même toute la vérité de cette affection et toute ma douceur naturelle pour m'empêcher de chercher le retour du même traitement en le méritant. Car j'avais trouvé dans la douleur, dans la honte même, un mélange de sensualité qui m'avait laissé plus de désir que de crainte de l'éprouver de rechef par la même main. Il est vrai que, comme il se mêlait sans doute à cela quelque instinct précoce du sexe, le même châtiment reçu de son frère ne m'eût point du tout paru plaisant. Mais de l'humeur dont il était, cette substitution n'était guère à craindre, et si je m'abstenais de mériter la correction, c'était uniquement de peur de fâcher Mademoiselle Lambercier, car telle est en moi l'empire de la bienveillance, et même de celle que les sens ont fait naître, qu'elle leur donna toujours la loi dans mon cœur. Qui croirait que ce châtiment d'enfant, reçu à 8 ans par la main d'une fille de 30, a décidé de mes goûts, de mes désirs, de mes passions, de moi pour le reste de ma vie, et cela précisément dans le sens contraire à ce qui devait s'en suivre naturellement. En même temps que mes sens furent allumés, mes désirs prirent si bien le change que, bornés à ce que j'avais éprouvé, ils ne s'avisèrent point de chercher autre chose. Avec un sang brûlant de sensualité presque dès ma naissance, je me conservais pur de toute souillure jusqu'à l'âge où les tempéraments les plus froids et les plus tardifs se développent. Tourmenté longtemps sans savoir de quoi, je dévorais d'un œil ardent les belles personnes. Mon imagination me les rappelait sans cesse, uniquement pour les mettre en œuvre à ma mode et en faire autant de demoiselles Lambercier.
Moi, j'aime bien la fessée, ça me chatouille, ça me chatouille. Moi, j'aime bien la fessée, ça me chatouille toute la journée. La fessée que j'aime bien, c'est la fessée du matin.
La fessée que j'aime bien, c'est la fessée du matin.
Quand je mets la queue du chat dans mon bol de chocolat. Moi, j'aime bien la fessée, ça me chatouille, ça me chatouille. Moi, j'aime bien la fessée, ça me chatouille toute la journée. La fessée que j'apprécie.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h29 et c'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée aux confessions de Jean-Jacques Rousseau, une semaine sur les confessions. C'est ce que nous vous offrons à partir d'aujourd'hui en compagnie d'Alain Gros-Richard, professeur honoraire de littérature à l'Université de Genève, à qui l'on doit notamment une édition des confessions disponible en Garnier Flammarion, mais qui a aussi participé à l'édition critique avec François Jacob. Les œuvres complètes de Rousseau, le volume 20, concerne les rêveries d'un promeneur solitaire, et à qui l'on doit également une introduction avec Jean-Marc Drouin à la botanique de Rousseau, coédition PUF et Fondation Martin Bonnemère.
J'aime bien la fessée, ça me chatouille, ça me chatouille. Moi,
j'aime bien la fessée, ça me chatouille toute la journée.
Mais ma fessée préférée, je la garde pour la soirée. Quand je découpe les rideaux avec une paire de ciseaux.
Moi j'aime bien la fessée, ça me chatouille, ça me chatouille. Moi j'aime bien la fessée, ça me chatouille toute la journée.
Et comme le disent mes parents, ça fait circuler le sang.
Mais comme le disent mes parents, ça fait circuler le sang.
La maison est bien plus gaie quand on reçoit la fessée. Moi
Les confessions, il faudrait mettre en épigraphe une phrase qu'il écrivait à un ami le 19 mars 67, je me rappelle. Il lui disait, cet homme que vous prenez pour moi n'est pas moi. Ben c'est ça les confessions, cet homme que vous prenez pour moi n'est pas moi. Et je vais vous dire ce que j'ai fait, dit-il. Je vais tout vous raconter. Je vais vous expliquer ma vie secrète. Même ce que j'ai fait de pire et que Dieu seul connaît, je vais vous le dire.
Voilà, je vais vous le dire, c'est Henri Guillemin qui racontait ça en 1962 en parlant évidemment de Rousseau. J'ai lu un extrait de la scène devenue restée célèbre de la fessée, la volupté que découvre, que goûte Rousseau au moment où Mademoiselle Lambercier le fesse. Il y a d'autres passages, y compris dans le livre 1 qui nous occupe aujourd'hui, Alain Gros-Richard, qui témoigne de cette jouissance un peu honteuse. Voilà ce que signifie dire la vérité sur soi, c'est aussi dire, peut-être se contraindre à dire, ce dont nous pouvons avoir honte, à savoir notamment la jouissance dans la douleur.
Oui, alors évidemment c'est un texte extrêmement connu, introduit par Rousseau, quand il conclut ce récit, j'ai fait le premier pas dans le labyrinthe obscur et fangeux de mes confessions. Donc il a parfaitement conscience que là, c'est un labyrinthe qui le conduit dans des obscurités insondables peut-être. Ce qu'il faut remarquer dans ce passage, c'est que cette jouissance, il la découvre tout à fait par hasard. Il ne la cherche pas. Il cherchera à la reproduire, mais il n'y parviendra pas, sauf une ou deux exceptions. Bien. La deuxième remarque à faire, c'est que il est là placé dans un dilemme terrible qui va le singulariser. Là, c'est vraiment son type de jouissance qui va le singulariser, qui fait qu'il est autre que tous les autres. Parce que pour jouir, il faut qu'il se fasse fesser, mais il faut qu'il se fasse fesser par quelqu'un qu'il aime et qu'il l'aime. Or, pour se faire fesser, il faut se montrer détestable à la personne. Donc, ou bien vous vous faites aimer, et à ce moment-là, vous faites tout pour ne pas vous faire fesser, et vous ne jouissez pas. Ou bien vous voulez jouir, et à ce moment-là, vous ne pouvez avoir affaire qu'à une femme que vous avez fâchée et qui vous donne la fessée. Et c'est cette espèce de dilemme qui va déterminer, dit-il, toute sa vie. Alors il va essayer de reproduire la chose. Bon. Et à l'occasion de son séjour à Turin, où il est allé se faire convertir au catholicisme, etc.
C'est dans le livre 2. Hein.
C'est dans le livre 2. Il raconte comment absolument son sang bouillant, voulant répéter sa jouissance, il va dans des allées cachées près d'une ferme se montrer, non pas tout nu, mais exhiber le côté, non pas obscène, mais ridicule de son anatomie, c'est-à-dire se montrer de derrière, montrer son derrière, et non pas se montrer de face avec son objet obscène. Je dis ceci parce que, souvenez-vous, à propos de Montaigne, se montrer de face.
Voilà,
derrière.
Et là, en fait, il se montre de derrière.
Il y a toute une, disons, une thématique du devant, derrière, de profil, de côté, dans les confessions. C'était très. Alors, il y va, et puis il tente, il montre son derrière, en ayant pris la précaution d'explorer un tout petit peu les environs, c'est-à-dire il y a un puits où on peut, en cas de danger, fuir, descendre et se cacher et échapper, évidemment. Bon. Or, justement, c'est ce qui se produit. Il montre son objet obscène, une fille arrive, il y en a quelques-unes qui rient, mais elles se mettent à hurler et immédiatement, un homme au sabre terrible se précipite à sa suite, accompagné de vieilles femmes brandissant des manches à balai. Alors, il fuit dans ce puits où il descend. Moi, je lis cette histoire comme une sorte de puits de la vérité. Bon, sa vérité. Et voici le passage. Hein. J'avais compté sur l'obscurité, je vis de la lumière, je frémis, je m'enfonçais davantage. Hein. L'intérieur dont il parlait, je m'enfonçais davantage. Un mur m'arrêta. Et ne pouvant aller plus loin, il fallut attendre là ma destinée. En un moment, je fus atteint et saisi par un grand homme portant une grande moustache, un grand chapeau, un grand sabre, escorté de 4 ou 5 vieilles femmes armées chacune d'un manche à balai, parmi lesquelles j'aperçus la petite coquine qui m'avait décelé et qui voulait sans doute me voir au visage, de face, bon, et non plus de derrière. L'homme au sabre, en me prenant par le bras, me demanda rudement ce que je faisais là. On conçoit que ma réponse n'était pas prête. Je me remis, cependant, et, m'évertuant dans ce moment critique, je tirai de ma tête un expédient romanesque qui me réussit. Je lui dis d'un ton suppliant d'avoir pitié de mon âge et de mon état, que j'étais un jeune étranger de grande naissance, dont le cerveau s'était dérangé, que je m'étais échappé de la maison paternelle parce qu'on voulait m'enfermer, que j'étais perdu s'il me faisait connaître, mais que s'il voulait bien me laisser aller, je pourrais peut-être un jour reconnaître cette grâce. Alors voyez là, ce qui est intéressant, c'est que arrivé devant ce mur et obligé de faire face à cet homme au sabre qui le menace, il invente une histoire.
C'est l'expédient romanesque, mais il dit qu'il le sauve déjà.
C'est un expédient romanesque qui va le sauver. Vous voyez ici l'usage de la fiction. Il reconnaît tout à fait que c'est une fiction. Mais en même temps, c'est une fiction vraie. Parce que on pourrait penser à un prince qui s'est échappé, etc. Mais en fait, j'étais un jeune étranger de grande naissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour Rousseau, le Rousseau qui écrit « Un étranger de grande naissance » C'est pas un fils de noble, c'est précisément un fils du peuple, un citoyen de Genève. Et il était bien un étranger de grande naissance. Il avait bien quitter la maison de son père parce que on voulait l'enfermer là. Bon. Donc dans ce roman, il y a de la vérité. On a en tout petit quelque chose d'une certaine manière qui se déploiera formidablement dans ce grand roman qu'est la Nouvelle Héloïse, où là aussi il raconte d'une certaine manière son histoire.
Mais ce qui pose quand même la question de savoir de quoi ces confessions sont-elles le signe, puisque le terme même de confession, il ne le choisit pas par hasard. On a pointé la dimension moraliste du texte, voire même moralisatrice par moment, mais cette volonté de vouloir se confesser, précisément, de vouloir mettre au jour ce que l'on pourrait considérer comme étant des péchés, hein, le fait de jouir en se faisant fesser, ou là même de vouloir montrer ses fesses à des petites filles, c'est plus que moral. La question que je me pose, c'est la part de la dimension religieuse de cette entreprise, qui est présente dès le texte quand même.
Oui, il y a certainement...
Dès le titre, pardon.
Il y a certainement une dimension religieuse. On a évidemment fait le rapprochement avec saint Augustin. Bon, les confessions de saint Augustin, c'est pas du tout le même genre de confession. Saint Augustin, au fond, il parle à Dieu, il s'expose à Dieu directement. Dans les confessions, Rousseau se donne en pièce de comparaison au lecteur avec Dieu pour témoin.
Hein. Donc voilà, auprès de qui se confesse-t-il ? Auprès du lecteur,
qui ne
lui a rien demandé.
Dieu le connaît, Dieu sait qu'il est bon.
Or,
c'est pas la peine. Mais le lecteur, lui, s'est fait une image de Jean-Jacques complètement faussée. Et c'est cette image qu'il vise à réhabiliter. Et qu'il vise à réhabiliter, d'ailleurs, ce sera surtout la seconde partie des confessions que Jean-François Perrin en parlera certainement de manière très bien, parce qu'il connaît admirablement ces textes-là. La première partie, c'est moins... Enfin, il y a une partie « J'avoue mes péchés », mais il y a une partie « Ça me fait plaisir d'écrire ça ». Mais on sent qu'il jubile, et il le dit lui-même. J'écrivais ma première partie des confessions avec plaisir et en pouvant décrire aussi longuement que je voulais certains épisodes dont le souvenir me requinque au milieu des tourments et des malheurs que je suis en train de vivre.
Je coûtais la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de mes malheurs. Je n'ai pas su comment mon père supporta cette perte, mais je sais qu'il ne s'en consola jamais. Il croyait la revoir en moi sans pouvoir oublier que je la lui avais ôtée. Jamais il ne m'embrassa que je ne sentisse à ses soupirs, à ses convulsives étreintes, qu'un regret amer se mêlait à ses caresses. Elle n'en était que plus tendre. Quand il me disait « Jean-Jacques, parlons de ta mère », je lui disais « Eh bien, mon père, nous allons donc pleurer », et ce mot seul lui tirait déjà des larmes. « Ah !» disait-il en gémissant, « rends-la-moi, console-moi d'elle, remplis le vide qu'elle a laissé dans mon âme. T'aimerais-je ainsi si tu n'étais que mon fils ?» Je sentis avant de penser, c'est le sort commun de l'humanité, je l'éprouvais plus qu'un autre. J'ignore ce que je fis jusqu'à 5 ou 6 ans. Je ne sais comment j'appris à lire. Je ne me souviens que de mes premières lectures et de leur effet sur moi. C'est le temps d'où je date sans interruption la conscience de moi-même. Ma mère avait laissé des romans, nous nous mîmes à les lire après souper, mon père et moi. Il n'était question d'abord que de m'exercer à la lecture par des livres amusants, mais bientôt l'intérêt devint si vif que nous lisions tour à tour, sans relâche, et passions les nuits à cette occupation. Nous ne pouvions jamais quitter qu'à la fin du volume. Quelquefois, mon père, entendant le matin les hirondelles, disait, tout honteux, « Allons-nous coucher, je suis plus enfant que toi. » En peu de temps, j'acquis par cette dangereuse méthode non seulement une extrême facilité à lire et à m'entendre, mais une intelligence unique à mon âge sur les passions. Je n'avais aucune idée des choses, que tous les sentiments m'étaient déjà connus. Je n'avais rien conçu, j'avais tout senti. Ces émotions confuses que j'éprouvais coup sur coup n'altéraient point la raison que je n'avais pas encore, mais elles m'en formèrent une autre, d'une autre trempe, et me donnèrent de la vie humaine des notions bizarres et romanesques dont l'expérience et la réflexion n'ont jamais bien pu me guérir.
Un souvenir qui me fait frémir encore et rire tout à la fois est celui d'une chasse aux pommes qui me coûta cher. Ces pommes étaient au fond d'une dépense qui, par une jalousie élevée, recevait du jour de la cuisine. Un jour que j'étais seule dans la maison, j'allais chercher la broche pour voir si elle pourrait atteindre ce précieux fruit. Elle était trop courte. Je l'allongeai par une autre petite broche qui servait pour le mini-gibier, car mon maître aimait la chasse. Je piquai plusieurs fois sans succès. Enfin, je sentis avec transport que j'amenais une pomme. Je tirai très doucement. Déjà la pomme touchait à la jalousie. J'étais prête à la saisir. Mais qui dira ma douleur ? La pomme était trop grosse. Elle ne put passer par le trou. Que d'invention ne mis-je point en usage pour la tirer ? Lecteur pitoyable, partagez mon affliction. Je ne perdis point courage, mais j'avais perdu beaucoup de temps. Je craignais d'être surpris. Je renvoie au lendemain une tentative plus heureuse et je me remets à l'ouvrage tout aussi tranquillement que si je n'avais rien fait, sans songer aux deux témoins indiscrets qui déposaient contre moi dans la dépense. Le lendemain, retrouvant l'occasion belle, je tente un nouvel essai. Je monte sur mes tréteaux, j'allonge la broche, je l'ajuste. J'étais prêt à piquer. Malheureusement, le dragon ne dormait pas. Tout à coup, la porte de la dépense s'ouvre. Mon maître en sort, croise les bras, me regarde et me dit « Courage, la plume me tombe des mains. » On peut lire les nombreuses anecdotes racontées par Rousseau dans ce texte Alain Gros Richard comme étant l'illustration de ce qu'il affirme dans le texte lu par Georges Clès, donc toujours au début du livre 1, à savoir « je sentis avant de penser ». Parce que chez lui, il insiste beaucoup sur le fait que le sentiment précède la raison, qu'il est bien plus doué pour ressentir que pour concevoir et pour raisonner. Et finalement, les récits que nous partageons aujourd'hui, la fessée, le fait de montrer ses fesses et ici le vol des pommes, viennent illustrer ce rapport aux sensations qui précèdent toujours chez Rousseau.
Oui, je sentis avant de penser, il le rappelle dans ce préambule, je sens mon cœur et je connais les hommes. Donc le sentiment n'est pas une connaissance vague, c'est une forme de connaissance tout à fait spécifique et qui, pour Rousseau, a au fond plus de valeur que celle du concept.
C'est bon. Le pur sentiment d'exister des
alors,
des
il y a le sentiment de l'existence, etc. Je ne veux pas dire que Rousseau ne soit pas un philosophe du concept, bien sûr.
Non, mais lui-même insiste sur le côté laborieux de sa raison.
Le sentiment est une pierre de touche absolument indépassable, le sentiment intime. Alors, ce que vous avez lu, là, ces premières pages où il parle de son père et de sa mère défunte, il y a quelque chose de très important, vous l'avez noté, le père est inconsolable de la perte de son épouse, la mort de la mère de Rousseau, elle est due à son fils,
hein,
c'est bon. Il se sent d'une certaine manière coupable de la mort de son père. Et de la mort de sa mère. Le père lui dit, en l'embrassant, rends-la-moi, console-moi d'elle. T'aimerais-je ainsi si tu n'étais que mon fils? C'est terrible. Parce que ça veut dire, je t'aime bien sûr comme mon fils et tu seras un citoyen digne de ton père, un vrai citoyen de Genève, un vrai Romain. Mais je ne t'aime pas que comme mon fils, soit aussi la femme que tu m'as prise. Hein. Il faut être à la fois les deux. Et Rousseau tirera de là, au bout du compte, cette contradiction qui l'a toujours animé. Je suis à la fois efféminé et fier, etc. Bon. Alors, dans les lectures qu'il fait, vous voyez, il lit avec son père, ses premières lectures, c'est des lectures de romans qui touchent au cœur. Il les lit avec son père la nuit. Hein. Ce sont des nuits passées avec son père. Suivront d'autres lectures l'année suivante, qui seront des livres sérieux, dont celle de Plutarque, qu'il lit devant son père. Et là, il s'identifie non pas à des héros de romans efféminés, mais à des Romains fiers, etc. Voilà tout ce qui constitue, c'est admirablement perçu par Rousseau, son ambiguïté, son côté duplice fondamental. Alors, je reviens au texte sur les pommes que vous avez lu. Hein. Bon, vous avez noté, mais là, tout le monde a pu le noter, que au moment où il raconte à l'imparfait ou au parfait cette tentative du petit Jean-Jacques à 8 ans, ou à 14 ans, de piquer des pommes, il le raconte, et tout d'un coup, les verbes surgissent au présent, la porte s'ouvre, et le maître dit « courage », et à ce moment-là, celui qui tient la plume, le vieux Rousseau, dit « la plume me tombe des mains ». C'est-à-dire qu'on a ici une superposition. On pourrait parler d'analepse, etc., mais une superposition du passé et du présent, la plume venant, au fond, se substituer à la broche avec laquelle il pensait piquer sa pomme. Une sorte d'échec de l'écrivain à décrire la réalité de ce que pouvait sentir le petit Jean-Jacques. C'est un texte, à cet égard, tout à fait représentatif du style des confessions, peindre à la fois l'état de mon âme au moment où l'événement se produisait et au moment où je le décris.
Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont mes dents trop bien rangées, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois?
Je suis comme je suis, c'est Jacques Prévert qui l'écrit, Juliette Gréco qui le chante, Rousseau qui le démontre, et la boucle est bouclée. Un grand merci à vous, Alain Gros-Richard, d'être venu nous parler des confessions ce matin. C'était un plaisir de vous écouter. Comme à chaque fois, je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Déjà, l'édition, vous avez établi des confessions qu'on trouve en Garnier Flammarion, en deux volumes. Le volume 20 des œuvres complètes de Rousseau, dont vous proposez une édition critique avec François Jacob, qui concerne les rêveries du promeneur solitaire, un texte sublime auquel on consacrera sans doute une semaine un peu plus tard. Et puis également les introductions de votre part et de Jean-Marc Drouin à La botanique de Rousseau, disponible au PUF et Fondation Martin Bonnemère.
Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer.
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver Géraldine Mosna-Savoie.
The actual writing about Cipriani was quite a step, because nobody had done anything like that before. And when it was heard that I was doing it, a lot of people told me, or wanted to know. I went around speaking and showed it to Cipriani, said, by all means. It was a step not only for me, but for everybody.
Connaissez-vous C.L.R. James, Cyril Lionel Robert James? Eh bien, en tout cas, vous venez d'entendre sa voix et peut-être pourrez-vous mieux encore le connaître grâce à cette biographie de son œuvre tout juste parue aux éditions de La Découverte. Alors, qui était C.L.R. James? Eh bien, un intellectuel caribéen né en 1901 et mort en 1989, originaire de Trinité et Tobago, colonie britannique antillaise, un militant formé à la culture classique en Angleterre, mais qui a pris part au grand mouvement d'indépendance de son temps, auteur des Jacobins Noirs et grand lecteur de Melville ou encore de Jean-Jacques Rousseau, et puis aussi un joueur de cricket, sa première passion, et qui n'est pas sans lien avec son œuvre politique. Ce premier lieu de formation politique est le terrain de cricket, comme le souligne Mathieu Renaud dans cette biographie, qui a tout déjà pour James de l'espace à l'intérieur duquel se jouent en miniature les rivalités de classe et de race. Et puis, C.L.R. James est aussi celui que le London Times a surnommé en 1980 le Platon noir de sa génération. Eh bien, à la place de Platon, on ferait quand même mieux de dire Marx, car quand on découvre le parcours de James, l'idée d'une révolution mondiale tient plutôt à celui qui a dominé tout son engagement pour la décolonisation qu'à l'ordonner Platon. Le projet de C.L.R. James était plus précisément le même que celui de Trotsky, c'est-à-dire de traduire en langue américaine et pour le peuple américain, y compris le monde colonisé de langue anglaise, le marxisme, c'est-à-dire chaque principe et pratique du bolchevisme selon lui. L'idée de traduction, c'est peut-être d'ailleurs ce qui permet au mieux d'appréhender et d'interroger son œuvre, c'est-à-dire de voir comment James a traduit pour l'homme noir un modèle d'abord eurocentriste et occidental, avec tout ce que cela comporte de transposition parfois vaine, mais aussi de réappropriation féconde.
Platon ou Marx noir, c'est intrigant, tout ça te donne envie de lire le livre.
Et de découvrir C.L.R. James, donc c'est par vos éditions de La Découverte et c'est par Mathieu Renaud.
Merci Géraldine. Et merci à tous, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain, vivement demain, pour la suite de notre lecture des confessions de Jean-Jacques Rousseau. Après le préambule et le livre 1, aujourd'hui en compagnie d'Alain Gros-Richard, demain ce sera Claude Habib qui viendra vous conter Le bonheur aux charmettes de Rousseau, avec Madame de Varins, de Huarins, on verra quelle prononciation il faut adopter, c'est le livre 6 des confessions. D'ici là, pour réécouter cette émission, c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins, vous pourrez la réécouter mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter à l'heure de votre choix. Et rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.